Chers amis, bonjour. Il y a 100 ans, le 19 février 1921, la France signe un traité avec la Pologne. Cet État vient de retrouver son indépendance au terme d'une longue éclipse. La Grande Guerre est passée par là, les empires se sont effondrés et de nouveaux pays apparaissent au centre et à l'est de l'Europe. La Pologne revêt une importance stratégique pour l'avenir du continent. C'est en tout cas ce que pense le Quai d'Orsay. Nous allons tenter de comprendre pourquoi avec Isabelle Davion, maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Bonjour Isabelle Davion.
Bonjour.
Alors en 1921, la Pologne est un État encore très jeune, même si elle porte une longue histoire. Quand a-t-elle proclamé son indépendance ?
Alors l'indépendance de la Pologne, la nouvelle indépendance de la Pologne est proclamée le 11 novembre 1918 avec l'armistice signé par l'Allemagne. Après, vous l'avez dit fort justement, une très longue éclipse puisqu'elle a été partagée par les trois grands empires à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça n'est pas un État nouveau dans cette Europe post-Grande Guerre, mais c'est la recréation, c'est la Polonia restituta, c'est-à-dire qu'on retrouve cet État qui a une existence historique extrêmement prestigieuse.
Alors il faut bien comprendre le contexte de ce côté-là de l'Europe, parce que si en France l'armistice est signé, la guerre continue, on parle parfois d'une guerre sans fin à l'Est, et que se passe-t-il justement sur ce territoire polonais ?
Alors la Pologne se retrouve dans cette fameuse guerre sans fin sur plusieurs fronts. Ce peut être des fronts de plébiscite, hein, par exemple. On sait que les Polonais se sont heurtés au corps front allemand en Haute-Silésie qui devait être partagé entre l'Allemagne et la Pologne. Et puis de façon peut-être, je dirais, plus classique, la Pologne se retrouve dans une guerre contre la Russie bolchevique pour ses frontières à l'Est de l'Europe. Parce que une fois que la Pologne est proclamée et reproclamée, tout reste à faire. Voilà, l'État existe, mais il lui faut un État, enfin il lui faut un gouvernement, il lui faut des frontières. Et sur cette question de frontières, eh bien, il y a la conférence de la paix. Les quatre grands sont réunis pour décider de l'avenir de ce nouveau continent européen. Et les Polonais ont tendance à penser que pour tout ce qui est de leurs frontières occidentales, tout ce que les alliés leur octroieront sera bon à prendre et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour agir sur les frontières occidentales. Ils sont plus ou moins dépendants des négociations des traités de paix. En revanche, pour ce qui est des frontières orientales, alors là, ils se sentent une plus grande marge de manœuvre, d'autant plus que les Polonais ne sont pas du tout d'accord avec le programme territorial sur lequel travaillent les quatre grands. Les Polonais ont en tête leur passé, dans leur passé, il y a cette fameuse République des deux nations, c'est-à-dire une sorte de Commonwealth qui existait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'était la République polono-lituanienne. En fait, c'était le plus grand État de l'Europe moderne. Et dans cette République polono-lituanienne, eh bien, le territoire englobait ce qui est à présent en 1918, appelé à être peut-être la Lituanie, peut-être l'Ukraine, peut-être le Bélarus, etc. Donc, la Pologne a un programme territorial qui ne recoupe pas du tout les frontières ethnographiques, mais qui recoupe des frontières historiques. Mais si on donne aux Polonais leur programme frontalier, eh bien, ça veut dire que c'est une Pologne qui engloberait des territoires donc peuplés d'Ukrainiens, de Lituaniens, de Bélarus. Et ça, pour les grandes puissances réunies à Paris, ça n'est pas entendable. Donc, on leur propose ce qui porte un nom assez célèbre, il me semble, qui est la Linker Zone, qui en gros s'arrête aux frontières ethnographiques, c'est-à-dire qu'à l'ouest, ça parle polonais, à l'est, ça parle d'autres langues, mais ça ne convient pas aux Polonais qui décident donc d'aller se servir sur place et de partir, de lancer les troupes vers l'est de l'Europe. Mais ils vont rapidement se heurter à l'armée rouge.
Bien sûr. Et alors pourquoi la France s'intéresse-t-elle au sort de la Pologne en particulier ? Parce qu'il y a aussi d'autres pays dans cette zone.
Alors il faut tout de même dire que la France s'intéresse à beaucoup de pays, pas seulement la Pologne. Il y a aussi la Tchécoslovaquie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Mais il est vrai que dans cette géographie affective et stratégique française, la Pologne a une place particulière. Pour des raisons historiques, tout d'abord, il y a un long passé d'une relation franco-polonaise très intime, hein, qui remonte quand même ne serait-ce qu'à Henri III, qui a été roi de Pologne avant d'être roi de France. Mais si on est sur un tempo peut-être peut-être plus proche de la Grande Guerre, au XIXe siècle, la France, depuis Napoléon III, s'est un petit peu positionnée comme étant la championne des nationalités de l'Europe centro-orientale, et elle a porté ce projet de renaissance de la Pologne.
Et est-ce que par rapport à ses voisins, je pense notamment à la Grande-Bretagne, elle a un rôle assez pionnier en ce domaine ?
Alors oui, il faut dire que la Grande-Bretagne n'a pas cette tradition d'influence sur le continent européen. La Grande-Bretagne a fait de longue date le choix de l'Empire. Hein. Elle a des horizons à la fois plus vastes, mais moins proches aussi de l'Europe. Et pour la France, il y a vraiment cette tradition de présence sur le continent européen. Et puis, la France est de toute façon la marraine de tous ceux qu'on a appelés les États successeurs, ces États qui sont nés de l'effondrement des grands empires multinationaux. Je rappellerai pour illustrer ce fait que pendant la Grande Guerre, ou en tout cas la fin de la Grande Guerre, tous les comités nationaux qui sont nés, le comité national polonais, le tchèque, le slovaque, le slave du Sud, etc., ont tous leur gouvernement provisoire à Paris. Paris, c'est la capitale de l'Europe centro-orientale.
Et puis arrive ce traité de 1921 et vous insistez bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une alliance militaire.
Non, effectivement, je crois que c'est important de le rappeler. Il ne s'agit pas d'une alliance parce que pour qu'on parle d'alliance militaire entre deux pays, il faut qu'il y ait un engagement à une assistance militaire immédiate en cas d'attaque non provoquée. C'est-à-dire que non seulement l'aide est déjà militaire, mais en plus elle est automatique. Or, le texte qui est signé entre la France et la Pologne n'engage pas à une aide militaire et en plus n'engage pas à une aide automatique non plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les grandes dispositions de cet accord politique franco-polonais qui est signé le 19 février 1921, il y a avant toute chose l'engagement de se concerter. Alors, sur des termes qui sont sujets à interprétation, là aussi on voit bien qu'il n'y a pas d'automaticité. Les deux pays s'engagent à se concerter en cas d'agression venue d'Allemagne et en cas de menace contre le traité de Versailles. Donc il ne s'agit pas d'une alliance. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y a juridiquement aucune obligation de la France d'intervenir, mais attention, cela ne retire rien au débat moral, cela ne retire rien au fait que par ce traité, la France et la Pologne établissent un devoir de solidarité à l'égard de l'Allemagne et, on y reviendra sans doute, à l'égard de la Russie bolchevique. Et dans le fond, la France reconnaît malgré tout qu'elle a un engagement particulier à l'égard de la Pologne parce que, d'une certaine façon, de la sécurité de la Pologne dépend la sécurité de la France et vice-versa. Alors, en complément de cet accord politique, il y a malgré tout une convention militaire qui est signée. Alors, les signer de manière confidentielle, hein, puisque je rappelle que les traités de paix ont établi la naissance de la diplomatie ouverte et donc l'interdiction déjà d'une part des alliances bilatérales militaires et puis l'interdiction des accords secrets. Bon, alors on s'arrange toujours un petit peu avec le système international. Donc il y a cette convention militaire secrète, mais qui là non plus hein, n'établit pas du tout d'alliance militaire. La philosophie de cette convention militaire secrète, c'est que plutôt que de prendre des engagements à l'égard de la Pologne comme le voudrait une alliance, la France considère que c'est en aidant la Pologne à forger une armée vaste, solide, digne de ce nom et moderne, qu'elle va assurer d'une certaine façon la sécurité de la Pologne. Alors, plus concrètement également, cette convention militaire établit des rencontres d'état-major qui auront lieu à partir de 1922 parce que, et c'est là l'un des aspects de cette entente qui a beaucoup froissé nos amis polonais et on peut le comprendre, c'est que l'entrée en vigueur de cet accord politique et de cette convention militaire est soumise à la conclusion d'un accord commercial, ce qui a donné l'impression à la Pologne d'avoir à acheter cet accord. Et c'est très très clair dans les archives, hein, les Polonais disent qu'ils sont un peu traités comme une cendrillon finalement.
Ils ne l'ont pas bien vécu.
Non, pas trop, non.
Et pour la France, quel est l'intérêt stratégique de la Pologne dans sa vision globale de l'Europe ? Quel intérêt y trouve-t-elle dans ce traité ?
Alors pour la France, l'intérêt est absolument immense. Mais je dirais en miroir, pour la Pologne, l'intérêt est absolument immense aussi. Il n'y a pas de déséquilibre de ce point de vue. Et d'ailleurs, c'est la Pologne qui est demandeuse de ce traité en 1921. Mais ça rentre complètement dans l'intérêt de la France. On aurait volontiers attendu un petit peu que les choses se consolident et puis que notamment un traité de paix soit signé entre la Pologne et la Russie bolchevique. Mais bon, le gouvernement polonais a voulu accélérer les choses et on l'a fait bien volontiers. Mais pour la France, l'objectif, si vous voulez, finalement dès novembre 1918, c'est de répondre à la question comment gagner la prochaine guerre avec l'Allemagne. Ça, c'est assez clair immédiatement. Et la réponse, c'est que cette prochaine guerre avec l'Allemagne sera gagnée avec l'aide d'un réseau d'alliances à l'est de l'Europe, un réseau d'alliances qui vient également compenser la perte de l'alliance russe. Et donc, il faut établir, notamment très concrètement, des plans d'état-major avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie, la Roumanie principalement, et la Yougoslavie, enfin future Yougoslavie dans un second temps, pour forcer l'Allemagne, en cas de guerre, à se battre sur deux fronts. Et d'ailleurs, de façon parallèle à la conclusion de cet accord avec la Pologne, c'est pour ça que je dis que la France, ça rentre complètement dans ses plans, en parallèle à ces négociations, l'état-major français a mis en place un plan dit plan P, qui est à peu près prêt en 1920 et qui prévoit, en cas de guerre, que la France donc se batte à l'ouest depuis la Rhénanie, la Pologne et la Tchécoslovaquie se battent à l'est, la France rentrerait dans la Roure et dans la vallée du Main pendant que la Pologne et la Tchécoslovaquie attaquent à l'est, et à un moment donné, les troupes françaises et polonaises et tchécoslovaques font jonction au milieu de l'Allemagne et coupent l'Allemagne en deux.
Et il y a un autre intervenant, un autre acteur, ce sont les bolcheviks. La Pologne a aussi son rôle à jouer sur ce terrain-là.
Oui, la Pologne, comme une fois de plus aussi les autres pays de la zone, ont ce rôle de barrière de l'Est, c'est-à-dire un cordon sanitaire. Le communisme bolchevique est vu comme une pandémie qui menace l'Europe et ces pays à l'Est sont là pour faire barrière. Ça veut dire surveiller une éventuelle progression du bolchevisme ou plus techniquement, si les bolcheviks devaient avancer, se ruer sur l'Europe civilisée, comme dit Clémenceau, eh bien, il revient à chacun de ces États de défendre leurs frontières. Par exemple, la Tchécoslovaquie dans les Carpates, la Roumanie plus au sud, et puis la Pologne, les frontières avec l'Ukraine et la Biélorussie.
Alors, en 1921, nous comprenons bien que la Pologne est entre l'Allemagne et les bolcheviks. Est-ce qu'il y a déjà en germe son sort tragique pendant la Seconde Guerre mondiale ou c'est une toute autre histoire finalement qui va se jouer à ce moment-là ?
Alors c'est vrai que moi je n'aime pas dire que la Seconde Guerre mondiale est en germe dans les traités de paix parce que je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est parce que les traités de paix n'ont pas été appliqués qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que très très clairement, et les militaires sont les premiers à le dire d'ailleurs, les frontières centro-orientales entre Allemagne et Russie bolchevique sont très très difficiles à défendre et qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut les consolider, c'est la coopération, qu'elle fût d'ailleurs économique ou militaire. Donc les Polonais, comme les autres États successeurs, héritent d'une situation stratégique qui est compliquée. Mais si tous ces pays travaillent ensemble à consolider le nouveau système international, eh bien les choses peuvent fonctionner. En fait, vraiment, ces traités de paix pouvaient fonctionner. Le problème étant que chacun, mais la France également, chacun se replie dans le fond sur ses intérêts propres. La France, ça va être, si possible, une alliance avec les Britanniques. Les Polonais veulent se rapprocher de la Hongrie. Donc voilà, les choses vont rapidement s'enrayer. Puis par-dessus tout ça, une crise économique majeure. Et là, voilà, c'est tout qui part en morceaux.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce traité entre la France et la Pologne ?
Alors, il en reste beaucoup de questionnements, notamment du côté polonais. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, le fait de dire que ce n'était pas une alliance ne balaye en rien l'obligation morale, peut-être, de la France en 1939. Et pour les Polonais, ça ne passe toujours pas, ce qui s'est passé en septembre 39. Alors, il faut tout de même rappeler que à partir du moment où le Troisième Reich attaque la Pologne, la France à déclarer la guerre et mobiliser. Mais bon, si c'était pour se ruer derrière la ligne Maginot en attendant que la Pologne soit avalée, c'est vrai que l'efficacité pour les Polonais était tout à fait relative, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc cet épisode reste sujet à beaucoup de rancœur, je crois, et c'est pourquoi c'est important, et c'est bien que le centenaire en offre la possibilité, qu'on puisse en parler ici, c'est vraiment très très précieux, parce que c'est important de revenir sur les événements, et non pas d'essayer de trouver qui est coupable, qui n'est pas, c'est d'essayer de comprendre que les responsabilités sont au contraire extrêmement partagées.
Eh bien, un grand merci Isabelle Davion. Je rappelle que nous fêtons le centenaire du traité entre la France et la Pologne. C'était le 19 février 1921. À bientôt.
Merci.